Chers auditeurs, chères auditrices, Shafika au micro et Jean-Sébastien Bach en ouverture de cette émission. Une très bonne année 2024 à vous. Et il est toujours bon de commencer une nouvelle année avec Bach. Il s'agit ici de l'adagio du deuxième concerto pour violon qui s'accorde bien à l'atmosphère de l'hiver. Aujourd'hui, un thème original dans l'amour des livres, un thème qui nous touche tous, de près ou de loin. Il s'agit de la mendicité, considérée d'un point de vue philosophique. Et avec nous dans le studio pour évoquer ce sujet grave, un éminent connaisseur de la question, Étienne Elmer. Bonjour.
Bonjour Charles Fica et merci de m'accueillir et bonne année également.
Alors, Étienne Elmer, vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université de Porto Rico et vous êtes l'auteur de plusieurs travaux philosophiques sur la question de la mendicité. Le dernier des hommes, figure du mendiant en Grèce ancienne, au Félin, en 2015. Mendiant et mendicité en Grèce ancienne, un ouvrage que vous avez dirigé au Classique Garnier. Et là, vous publiez, mendier peut-être, un essai aux éditions Verdier dans le prolongement de tous ces livres. On pourrait citer également d'autres titres sur Épicure ou Diogène. Et ce dernier, notamment auquel vous vous référez constamment. On a l'impression que c'est votre philosophe de prédilection.
Eh bien, d'une certaine manière, la figure de Diogène est une figure extrêmement importante, à partir de laquelle, effectivement, la mendicité devient un sujet philosophique. C'est-à-dire que de pratiques que Diogène le cynique a commencé par exercer pour subvenir à ses besoins, créant ainsi d'ailleurs une polémique avec d'autres philosophes de son temps qui ne recommandaient pas du tout la pratique de la mendicité pour un certain nombre de raisons. Eh bien, Diogène, lui, va la pratiquer. Et quand on commence à s'intéresser aux raisons qui le poussent à ne pas travailler, renoncer à ses biens et se contenter de ce qu'il trouve, de ce qu'on lui donne, eh bien, un monde philosophique, effectivement, commence à apparaître, dont vous avez rappelé, à travers les différentes publications, comment on peut tisser des fils à partir de cette figure jusqu'à nos jours.
En tout cas, en consultant votre bibliographie, il nous semble que Diogène en constitue le fil rouge.
Sur la question de la mendicité, c'est exact. Et vous avez raison aussi dans la mesure où la pratique de la mendicité et la figure du mendiant sont aussi des figures qui prennent un sens en tant que pratiques économiques. Oui. Et donc, pour les comprendre, je suis d'abord parti, plutôt les choses se sont faites à l'envers, je suis d'abord parti de réflexions sur la pensée économique dans l'Antiquité, qui donne lieu à un certain nombre de travaux dans un domaine qui n'est pas encore extrêmement développé, mais en tout cas, il y a des choses extrêmement intéressantes à étudier dans ce domaine-là. Et à partir de la façon dont les Grecs pensaient l'économie, l'économie domestique, l'économie au niveau de la cité, eh bien, on se rend compte que ceux qui, justement, et oui, j'ai oublié de le dire, dans une économie qui est devenue, disons en gros au 5e siècle, complètement monétisée, donc l'argent fait son entrée, ça reste comme tout de même une certaine nouveauté, eh bien, comment des pratiques alternatives vont entrer en dissidence par rapport à ces questions économiques. Et justement, la mendicité va être une de ces formes de dissidence pour un certain nombre de raisons.
Alors, vous allez nous expliquer tout ça un peu dans le détail, mais en consultant votre page du même auteur, on remarque que l'économie tient aussi un rôle important dans votre pensée, puisque vous avez publié une philosophie grecque de l'économie. Votre Épicure est sous-titré « L'économie du bonheur, richesse et pauvreté chez les philosophes de l'Antiquité », un ouvrage collectif aussi chez Vrin. Et l'économie est un sujet philosophique parmi les autres, enfin, comme, je ne sais pas, l'être, la substance ou
oui,
l'existence.
Alors, oui, alors justement, ce qui m'a intéressé dans l'économie, c'est que il est assez fréquent chez les historiens de la pensée économique de considérer que la Grèce ancienne n'a pas de pensée économique, ou que si elle en a une, elle est extrêmement rudimentaire, succincte, et qu'elle se résume en quelque sorte à des opinions de bon sens, tirer des pratiques empiriques. Il me semble que un examen un peu plus minutieux des textes de la période classique, hein, donc en gros le 4e siècle avant Jésus-Christ, chez des auteurs comme, très classiques comme Platon, Aristote bien sûr, mais Platon, et puis après éventuellement les épicuriens et les cyniques, nous montrent qu'en réalité, et puis j'ai oublié Xénophon qui est très important également,
qui utilise le personnage de Socrate aussi.
Tout à fait, hein, Xénophon écrit un certain nombre d'ouvrages qu'on appelle les dialogues socratiques, hein, où il met Socrate en discussion avec d'autres personnages sur un certain nombre de questions, disons, morales, politiques. Un de ses traités s'appelle l'économique, donc comment bien administrer hein, son foyer. Donc, ce que je veux dire, c'est que à partir d'un examen minutieux de tous ces textes, on se rend compte qu'en réalité, il y a chez les Grecs une perception extrêmement fine de ce que sont les phénomènes économiques, de la rationalité que ces phénomènes engagent de la part de ceux qui s'y consacrent, et que cette rationalité peut entrer en conflit, par exemple, avec des questions morales, avec des valeurs politiques, des valeurs éthiques. Et donc, la réflexion philosophique consiste à s'interroger sur la façon d'agencer ensemble ces différentes valeurs dans la perspective d'une vie bonne. Alors, c'est un monde extrêmement que j'ai découvert au cours de mes travaux et de mes études. C'est un monde extrêmement riche qui n'a pas encore livré tous ses secrets, fort heureusement. Je dis fort heureusement parce que ça va me permettre de continuer à travailler. Et à partir de là, justement, la figure de la mendicité et du mendiant prend un relief singulier parce que il ne s'agit pas de faire, par exemple, pour Diogène, vœux de pauvreté. Comme on pourra le faire à des époques ultérieures, à partir de l'apparition du christianisme, par exemple, le choix d'une vie frugale est bien plutôt lié à des considérations de liberté, d'indépendance, de résistance, plutôt qu'à... que pour des raisons qu'on dirait théologiques ou
transcendantales,
etc. Mmh. Donc, il y a... au prisme de Diogène et du cynisme, une critique de la pensée politique et économique de son époque, en fait. Donc la pratique de la mendicité exerce une fonction éminemment critique, en même temps qu'elle exerce une fonction éthique destinée à assurer ce que Diogène et ses successeurs estiment être une vie bonne.
Mais alors justement, cette figure de Diogène, pour beaucoup, il est une sorte de provocateur, quand même, au cours de l'histoire. On l'a vu comme à la fois un provocateur, un histrion. C'est un personnage difficile à saisir, qui est aussi quelqu'un d'insolent et qui est animé par un orgueil fou.
Oui, vous avez raison. Ça, c'est l'épiphénomène Diogène. C'est-à-dire que Diogène, effectivement, est connu pour ses frasques. C'est un personnage assez peu recommandable, qui se livre à tout un tas de moqueries, mais aussi, vous l'avez dit, de provocations qui vont jusqu'au scandale.
Parce qu'il est moqué, mais lui-même répond de manière encore plus véhémente à ces moqueries.
Tout à fait. L'anecdote la plus célèbre étant sans doute celle où... il est en train de prendre le soleil, oui. Et Alexandre vient lui demander ce qu'il veut.
Alexandre le Grand.
Le roi de Perse, pardon.
L'un des plus grands conquérants, un des plus grands personnages de l'histoire universelle.
Hein. Tout à fait. Oui. C'est l'homme qui représente la puissance, le pouvoir, et lui demande ce qu'il veut, et Diogène répond « ôte-toi de mon soleil ». Et souvent, cette anecdote, effectivement, est interprétée comme étant le signe de l'arrogance extrême du misérable qui n'a pas peur d'affronter le puissant. Bon.
Mais il paraît que Alexandre aurait répondu, mais comment savoir, que si il n'avait pas été Alexandre, il aurait aimé être Diogène.
Tout à fait. Alors tout à fait. Il y a effectivement cette anecdote aussi qui existe. Alors concernant Diogène, donc en fait la première difficulté, c'est que nous avons assez peu de témoignages sur le cynisme. Ce sont des témoignages indirects. Hein. Nous savons que Diogène a produit beaucoup, mais ces textes nous sont quasiment tous perdus, à l'exception de quelques fragments qui sont eux-mêmes transmis par une tradition qui lui est hostile. Donc tout ça est à prendre avec beaucoup de précaution. Mais je crois qu'il faut aller plus loin que le caractère simplement anecdotique et un petit peu provocateur et bouffon auquel parfois on réduit Diogène, pour voir derrière cela plusieurs choses. D'abord, oui. D'abord, il y a chez Diogène, pour autant que cette parenté soit confirmée, une parenté avec un penseur qui l'a précédé, qui s'appelait Antisthène, et qui lui-même avait une théorie du langage et du nom propre à chaque chose. Et il est possible que Diogène ait repris en partie cette théorie, par exemple lorsqu'il dit « je cherche un homme ». Anecdote célèbre, hein, je cherche un homme, bon, ça revient dans plusieurs anecdotes. La question de l'adéquation du nom et des choses, qui est en soi une question métaphysique, hein, disons, est au cœur de ses préoccupations. Bon. Et puis il y a le Diogène moral et politique, et en même temps économique, parce que la question de l'argent est très présente dans les témoignages que nous avons. Les témoignages les plus utilisés ou plus étudiés sont ceux qui nous sont transmis par Diogène Laërce, hein, donc un autre Diogène, un compilateur un peu tardif, qui, dans ses Vies et doctrines des philosophes illustres, commence la section qu'il consacre à Diogène le cynique par une histoire de falsification de monnaie, puisque le père de Diogène aurait été le responsable de la banque de sa cité natale, de Sinope, yep. dans l'actuelle Turquie. Et donc, c'était un rôle éminemment important, puisque le père de Diogène avait pour fonction, notamment, de s'assurer que les pièces qui étaient en circulation étaient conformes pour que leur valeur ne soit reconnue. Et donc, les anecdotes racontent que Diogène aurait falsifié la monnaie. Alors, il y a plusieurs interprétations.
C'est un faux monnayeur.
Alors, soit un faux monnayeur, soit tout simplement quelqu'un qui aurait... Enfin, Diogène aurait altéré les poinçons qui figurent sur les pièces de monnaie émises par Sinope. Et si ces monnaies sont altérées par un poinçon, elles ne sont plus utilisables. Elles n'ont plus de valeur. Elles perdent leur valeur. Les poinçons avaient à la fois la fonction de faire reconnaître la valeur économique de la monnaie comme instrument d'échange, instrument de mesure, mais aussi de faire reconnaître la valeur et la souveraineté des cités. Chaque cité émettait sa monnaie avec un poinçon spécifique qui permettait d'en reconnaître l'origine. Donc l'acte de Diogène aurait une fonction éminemment critique vis-à-vis d'une instance qui est la banque. Bon, évidemment, la banque, ça nous parle beaucoup aujourd'hui. Une banque qui est à la fois une instance productrice de normes, de pouvoir, et en falsifiant cette monnaie, eh bien Diogène met à nu la façon dont les normes sont fabriquées. Au fond, en fabriquant de la monnaie, on fabrique du pouvoir, on fabrique de la capacité acquisitive. Dès l'instant que nous falsifions cette monnaie, eh bien la source du pouvoir est annulée. La valeur acquisitive de l'argent n'a plus de sens et nous sommes à peu près nus, où nous sommes face à ce que Diogène appelle le nomos, c'est-à-dire la tradition, qu'on traduit parfois par la convention. Au fond, l'ensemble une grande partie du moins des pratiques que nous développons sont des pratiques liées à des conventions et la question, ou à des traditions. Et la question est de savoir quelle est leur légitimité, quelle est leur valeur et à l'aune de quoi les mesurer. À l'aune de quoi mesure-t-on la valeur des valeurs, la valeur des traditions, la valeur des coutumes qui sont les nôtres? Pour Diogène, d'une certaine manière, l'histoire de la politique, c'est l'histoire de la domination et de la violence. L'histoire de l'économie, c'est l'histoire aussi de l'appropriation, de la dépossession, de la violence économique. Falsifier la monnaie, avec sa double portée économique et politique, c'est mettre à nu ces mécanismes et nous inviter à nous interroger sur, mais au fond, que seraient de bonnes conventions, d'une certaine manière, à l'aune de quoi les mesurer. Donc ça, c'est le projet critique de Diogène. Et puis, il y a... Alors, là où c'est pareil, il y a des interprétations qui s'opposent, hein, tout le monde n'est pas d'accord, mais on pourrait aller, je pense, jusqu'à défendre chez Diogène et les autres cyniques, parce que je parle de Diogène, mais il y a bien sûr d'autres cyniques importants, notamment Cratès, bien sûr, son disciple, si. Cratès. Hipparchia, qui a été l'épouse de Cratès aussi, il y a chez ces philosophes tout un versant constructif, positif. C'est-à-dire que on retient souvent des cyniques, leur versant destructeur, comique, qui égratine les puissants, etc., ou les conventions, mais on oublie qu'il y a aussi, après cela, peut-être quelque chose de positif à en tirer. Il ne s'agit pas de critiquer et de s'arrêter là, mais peut-être de reconstruire quelque chose sur la base, eh bien, d'une nouvelle réflexion sur comment nous voulons-nous vivre, qu'est-ce que serait une communauté d'où la violence disparaîtrait peut-être, où les rapports de domination disparaîtraient. Hein. La question de l'esclavage est très présente dans les anecdotes sur, sur Diogène.
Oui, parce que Diogène avait un esclave aussi qui s'était échappé.
Oui, tout à fait. Oui, un esclave qui s'était échappé. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il va faire pour le retrouver, eh bien, il dit, bah, au fond, ce serait bien étrange que je ne puisse pas vivre... Si mon esclave peut vivre sans moi, il serait bien étrange que je ne puisse pas vivre sans lui. Donc là, c'est pareil, il y a à la fois un Diogène aux prises avec... parce qu'on a dit, bah, voilà, Diogène, finalement, a un esclave, donc finalement, il n'est pas si critique que ça. Mais en fait, si, les anecdotes sont construites de telle sorte... qu'elles, du moins celles qui nous sont livrées par Diogène Laërce, sont construites de telle sorte qu'elles nous mettent à la fois en présence d'un contexte historique, social, politique, économique extrêmement précis, pour nous montrer comment Diogène se l'approprie et le déplace, le critique et le transforme.
En tout cas, c'est passionnant de vous entendre, parce que on devine que vous vous livrez à une réhabilitation complète de Diogène, enfin, si tant est qu'il en ait besoin, et que vous le réinterprétez à l'aune de beaucoup de nos problématiques d'aujourd'hui. Mais Diogène n'est-il pas une sorte de maître à penser pour tous les libertaires? Est-ce que Diogène ne serait pas un réfractaire dans la société, finalement?
Alors, de manière générale, je pense qu'il est extrêmement important de montrer la pertinence actuelle, ou sans vouloir calquer ni commettre d'anachronisme, mais la pertinence actuelle d'un certain nombre de penseurs anciens, et grecs notamment, pour nous aider à penser les problèmes contemporains. Alors ça peut paraître un petit peu étrange, puisque nous vivons dans des mondes à mille lieues de ce qu'a pu connaître Diogène, mais finalement, ou Platon, ou Aristote, mais finalement, il y a quelque chose qui est d'abord une histoire de la philosophie, donc le passé n'a pas disparu, le passé les idées passées ou élaborées dans le passé n'ont pas complètement disparu, elles sont reprises, appropriées, transformées, développées, hybridées avec d'autres, donc on peut faire l'hypothèse qu'il demeure toujours quelque chose de la pensée grecque dans la pensée qui nous anime aujourd'hui. Et puis par ailleurs, je crois que c'est un bon exercice qui a quelque chose à faire avec la question de l'universel en philosophie. C'est-à-dire que des penseurs aussi précis, attentifs et observateurs de leur époque, comme l'ont été Platon, Aristote, Épicure et Diogène également, surtout, mais je pense surtout à Platon et à Diogène qui sont d'éminents observateurs des mœurs, des comportements, des conduites de leur temps. Je crois que là, ce que dit Hegel est vrai, c'est-à-dire que c'est dans le particulier que se loge l'universel. C'est-à-dire qu'au fond, c'est en étant au plus près de ces descriptions-là que les phénomènes qu'ils décrivent nous parlent. Bon. Donc j'ai parlé de la banque avec Diogène. Bien sûr, les banques d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les banques de l'époque. Mais cela reste une banque, c'est-à-dire une institution financière sur laquelle est assise un pouvoir. Bon, je pense que ce n'est pas complètement faux de dire ça aussi aujourd'hui. Donc j'essaye d'en tirer une forme de positivité pour nous aider à penser le présent, oui.
Dans un précédent essai que vous aviez publié, toujours chez Verdier, Ici et là, une philosophie des lieux, vous consacrez quelques pages à Diogène également, et vous dites qu'il n'est pas un homme sans lieu, parce qu'on sait qu'il se promenait avec son tonneau, et donc il était particulièrement mobile dans ses déplacements, mais que c'est un homme de tous les lieux. Finalement, et c'est une manière aussi de vous l'approprier et de l'adapter et de le positiver, en quelque sorte, non ?
Oui, tout à fait. Alors,
On aurait pu voir, comme le Diogène, le ronchon qui reste dans son coin et qui refuse tout. Alors que vous en faites une figure presque du cosmopolite.
Alors, tout à fait. Alors, avant d'y venir, je voudrais juste faire deux précisions. La première, c'est que... Diogène ne vivait pas dans un tonneau, mais a vécu dans une jarre. C'est un détail technique, mais c'est important parce que cette jarre, en fait, lui a été à un moment fournie par la cité, donc pour qu'il puisse y habiter.
Alors, à chaque fois que vous lisez l'anecdote avec le tonneau,
un problème de traduction. Mais
ça vous rend fou, alors.
Non, je n'irai pas jusque-là.
Bon, désolé.
C'est juste pour replacer les choses dans leur contexte. Et surtout, je ne pense pas qu'il se déplaçait avec, en fait. Parce que c'est tout simplement
trop lourd,
intransportable.
Ouais. C'est comme la lanterne, aussi.
Voilà, mais, exactement.
Oui.
Mais le fait que cette jarre ou tonneau, peu importe, ne soit pas transportable, est aussi quelque chose de propre à Diogène, au sens où, finalement, s'il quitte un lieu, il trouvera un autre lieu pour l'accueillir. Comme il le dit, comme le rapporte une anecdote, parce que ces anecdotes ne sont pas de lui, mais sur lui, les portiques des temples m'offriront un toit pour la nuit, d'une certaine manière. Donc, effectivement, Diogène est un philosophe qu'on voit apparaître dans différentes cités. Bon, il part de Sinope, il s'exile. Et cet exil est d'ailleurs la façon dont lui-même dit, c'est comme ça que je suis entré en philosophie. Le fait, justement, de m'éloigner du nomos, c'est-à-dire des coutumes, des traditions, des lois constitutives d'un lieu, eh bien, le fait de m'y arracher, me permet d'en mesurer la relativité et de les comparer à d'autres. Et pareil, ensuite, Diogène on le retrouve à Athènes, à Corinthe, donc différentes cités qui lui permettent de relativiser les mœurs, les coutumes, les valeurs qui dominent, et d'élaborer sa propre réflexion. On n'est pas du tout dans le cadre d'un relativisme plat, qui dirait, au fond, toutes choses sont égales ou indifférentes, d'une certaine manière, puisqu'elles sont toutes relatives. On n'est pas dans ce cas de figure-là. Je pense qu'il y a chez Diogène l'affirmation positive d'un idéal, qui est d'abord un idéal d'indépendance. D'indépendance au sens de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre dans le choix de sa norme de vie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous aujourd'hui. Alors, vous évoquiez effectivement les libertaires. Si libertaire peut être pris en ce sens-là, oui, il y a de ça chez Diogène, au sens comment faire place à la diversité des normes de vie. C'est un problème que nous... Enfin, c'est devenu un problème, ou c'est devenu une question, je dirais, sociale extrêmement importante. Comment rendre compatible la diversité des normes de vie, des choix de vie, qui ne se limite pas simplement au choix ou à la liberté d'opinion, mais configurer une vie qui soit à la mesure de ce que nous souhaitons. Comment rendre cela possible dans une société, quoi. C'est vraiment une grande question, me semble-t-il. Donc Diogène, effectivement, en changeant de lieu, se heurte à cette question ou la soulève. Et ce qui ne l'empêche pas, comme vous l'avez tout à fait justement rappelé, qu'il soit aussi une figure du cosmopolitisme. On lui demandait de quel c'était il était. Il répond « je suis citoyen du cosmos ». Alors, c'est une formule extrêmement complexe qui n'est pas spécifique à Diogène. On la retrouve chez d'autres philosophes de son époque. Mais que veut-elle dire exactement ? Est-ce que c'est une métaphore ? Mais on ne voit pas bien exactement de quoi. Quel sens aurait le fait d'être citoyen de quelque chose qui n'est pas une cité, mais de l'univers ? Qu'est-ce que c'est que le cosmos ou l'univers pour Diogène ? Tout cela n'est pas extrêmement clair. Mais en tout cas, je dirais qu'il y a deux lectures peut-être principales qui sont un petit peu en tension. L'une consiste à dire, au fond, Diogène n'appartient à aucune cité. Il s'affranchit de toutes les constitutions, de toutes les normes, de toutes les cités particulières pour n'appartenir à aucune. Au fond, le fait que Diogène serait cosmopolite au sens où il s'appartiendrait à lui-même en n'appartenant à aucune des cités existante. Je ne suis ni athénien, ni plus de Sinope, ni plus de Corinthe. Et puis, il y a une autre possibilité d'interprétation qui, là, est peut-être plus positive, qui est, au fond, que le modèle de vie ou la norme de vie que Diogène le Cynique propose de construire est une norme qui peut avoir lieu en tout lieu, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je sois à Sinope, à Corinthe ou à Athènes, il m'est toujours possible, peut-être, de revendiquer et dans une certaine mesure de pratiquer la norme de vie à laquelle je souhaite que je souhaite me donner. Voilà. Donc un cosmopolitisme qui ne serait pas une forme de d'échapper au-delà du monde, hein, un peu à la Baudelaire, mais au contraire un ancrage. Non pas du tout un renoncement au caractère empirique, relatif, historique et contingent des mondes dans lesquels nous vivons, mais au contraire leur pleine acceptation en ayant pour boussole fondamentale ce souci de l'indépendance, ce souci de ne dépendre de rien et de personne.
Et Diogène a-t-il choisi volontairement d'embrasser cette vie de mendicité ? Est-ce que c'était sa vocation ? Parce que vous en faites en quelque sorte le parangon de la mendicité. Et pour vous, il incarne l'idéal de la figure du mendiant.
Alors,
est-ce que vous seriez d'accord avec cette interprétation ? C'est en tout cas ce qu'on a l'impression de percevoir chez vous.
Oui, alors, oui, vous avez raison. Alors, cette question de la volonté, c'est une question complexe que vous posez, je présume, en écho à ce qu'on appelle parfois la mendicité volontaire. La mendicité volontaire en référence à deux choses. D'une part, bien, des individus auraient choisi de renoncer à leurs attaches familiales, à leur ancrage professionnel pour mener une vie à la rue, une vie de mendicité. Bon, on entend dire ça quelquefois. Je suis toujours un petit peu méfiant vis-à-vis de ce phénomène-là, enfin de ce qu'on raconte à ce sujet. Je ne dis pas que c'est impossible, ça a sans doute existé, bon, ou ça existe sans doute, mais je vois plutôt la mendicité ou l'exclusion ou comme un phénomène, comme une violence subie. Bon. Et puis il y a aussi la mendicité volontaire pour des ordres religieux, hein, bien sûr, où là, mais là ça a engagé un système collectif qui avait précisément pour but de mettre tout le monde à l'abri du besoin, enfin du moins tous ceux qui... Donc on parle de là de choses un petit peu différentes. Dans le cas de Diogène, la question de la volonté, c'est en quelque sorte la conversion du hasard. Je m'explique. Diogène raconte souvent qu'il est... les anecdotes que nous avons sur Diogène nous le présentent très souvent aux prises, eh bien, avec ce qui nous arrive à tous, un événement fortuit, la contingence, une rencontre. La question est comment ne pas... comment faire un ensemble de circonstances. Voilà. La question qui se pose à Diogène est comment faire pour que ces circonstances n'affectent jamais mon indépendance et, d'une certaine manière, mon bonheur. Donc, si je suis aux prises avec la pauvreté, par exemple, la réflexion de Diogène, qui en cela est déjà, a aussi quelque chose à voir avec les stoïciens, hein, qui apparaissent aussi à son époque, eh bien, c'est peut-être d'embrasser le phénomène qui m'est échu, par exemple la pauvreté, la maladie ou la difficulté, pour faire en sorte que ce phénomène soit vécu comme si j'en avais eu moi-même l'initiative. Ce qui fait qu'au lieu de le subir de l'extérieur, je me l'approprie. Et ça, dans ce sens-là, oui, on peut parler d'une transformation par laquelle Diogène va effectivement exercer une sorte d'emprise volontaire sur les phénomènes. Une anecdote rapportée par Diogène Laërce explique que Diogène avait l'habitude de dire que tous les malheurs de la tragédie s'étaient abattus sur lui, il se retrouvait sans famille, sans lignage et sans cité. puisqu'il a été, suite à cette affaire de falsification, évidemment...
Il a dû être exfiltré.
Il a dû, voilà. Mais justement, Diogène Laërce dit que il est possible qu'en réalité, ce soit Diogène qui ait lui-même décidé de partir. Voilà. Donc, l'exil, alors l'exil, c'est évidemment un châtiment extrêmement terrible dans l'Antiquité. C'est le plus terrible des châtiments. C'est pire que la peine de mort, d'une certaine manière, puisque c'est, l'individu se retrouve privé de toute protection, hors de sa cité. Et là encore, Diogène endosse, ou fait comme s'il avait lui-même endossé le désir ou la volonté de s'exiler pour ne plus subir les coups de la fortune. Alors on dira, le résultat est le même. Oui et non. Bien sûr, le résultat est le même, mais en fait, ça change complètement la disposition de l'individu vis-à-vis du monde extérieur. Et il en va de même, effectivement, avec la mendicité.
Eh bien, Étienne Elmer, je vous propose que nous écoutions justement un extrait d'une œuvre inspirée par la mendicité, le célèbre opéra de Katsu, son ouverture. Kurt Weill, et on se retrouve tout de suite après pour continuer à évoquer ces questions de mendicité. C'était l'opéra de Katsu de Kurt Weill. Vous écoutez L'amour des livres sur fréquence protestante 100.7 sur la bande FM. Charfika au micro. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Étienne Elmer pour son nouveau livre « Mendier peut-être » qui, au fond, est une réhabilitation de la figure du mendiant. Ce qui est étonnant à vous lire, c'est que le mendiant devient presque un héros selon vous, et que la mendicité serait presque une solution à nos rapports sociaux et à leurs difficultés.
Alors, héros, je n'irai pas jusque-là, justement, parce que je prends bien soin de dire dans l'introduction, justement, que je ne cherche pas à faire de la figure du mendiant une figure héroïque, oui, mais une figure critique. C'est-à-dire une figure permettant de révéler, de penser un certain nombre de phénomènes, questions, difficultés d'ordre social, économique et politique, et que effectivement, dans un second temps, après ce passage critique, il y a effectivement un passage un peu plus positif, dans lequel, en continuité avec la figure de Diogène le Cynique, je me demande dans quelle mesure cette figure du mendiant et la pratique qui le définit, la mendicité, pourrait être une façon de retisser ou de contribuer à quelque chose qui serait de l'ordre du commun. précisément contre une vision un petit peu courante selon laquelle le mendiant est le contraire de l'homme ou de l'être humain accompli. Ce qui me semble avoir été une construction au long cours dans l'histoire de la philosophie. Bien sûr, la mendicité telle que nous la côtoyons dans nos villes est une situation terrible et difficile, dont on ne mesure sans doute pas tous les enjeux. Donc le livre n'appelle évidemment pas à valoriser les conditions négatives de vie des personnes qui sont condamnées à la mendicité, il invite plutôt à se demander ce qu'est une vision du monde perçue depuis l'expérience de ces personnes. Donc, cette vision du monde, c'est ce que je disais juste avant, je crois, est porteuse, à mon avis, d'un regard critique sur la façon dont le commun n'est plus vraiment commun ou est en perte de vitesse ou en perte de ou en déliquescence, comment la violence domine l'ensemble des rapports sociaux. Donc une figure vraiment critique pour penser cet état du réel.
Vous écrivez, Étienne Elmer, en conclusion, si mendier n'est pas amputé, l'avoir, ce n'est pas non plus seulement recevoir de l'autre. C'est, pourrait-on dire, faire circuler le commun, ce commun dont vous parliez juste à l'instant, et inscrire la mendicité dans le cycle d'une réciprocité où chaque partie donne. Le signale bien le commentaire de Diogène, selon lequel, quand il avait besoin de quelque chose, il disait qu'il réclamait son dû à ses amis, non qu'il leur demandait, qu'il leur mendiait. Et un peu plus loin, vous ajoutez, l'idée est ici de rendre légitime la mendicité en l'inscrivant dans un cycle d'échange et de réciprocité avec cette particularité que c'est précisément celui qui mendie qui a eu l'initiative de la relation en donnant ou en transmettant sa sagesse. C'est presque comme si c'était le mendiant qui offrait sa sagesse et presque sa richesse aussi.
Oui. Et ça fait partie effectivement du travail positif sur la figure du mendiant. Comment, au-delà d'une figure critique, en faire une figure positive. Alors positive, pas du tout au sens moral, mais encore une fois au sens méthodologique. Et le passage que vous avez cité fait effectivement fond sur une anecdote rapportée à propos de Diogène le cynique.
Vous dites jamais Diogène le chien, comme il s'appelait lui-même.
Oui, c'est vrai. Alors je pense que c'est une habitude...
Une facétie, voilà. De sa part. Encore une.
Encore une. Et l'idée, si vous voulez, c'est que ce qui dérange dans la figure du mendiant à qui l'on donne, c'est l'absence de réciprocité. C'est-à-dire que nous, lorsque nous sommes confrontés à quelqu'un qui nous sollicite, eh bien, le geste de don qui nous est demandé se fait, ou ne se fait pas, mais en tout cas, porte avec lui... l'horizon d'une réciprocité absente. Autrement dit, nos échanges n'ont lieu, dans la plupart des cas, que parce qu'ils peuvent fonder une forme de réciprocité. Bien sûr, les échanges économiques, mais les échanges... c'était Noël, il n'y a pas si longtemps, il y a de la réciprocité dans l'échange des présents qu'on peut se faire. Bon. Donc, ce que rend compliqué la figure du mendiant, c'est comment penser... un don qui n'appellerait pas de réciprocité. Et ça, Diogène y est confronté un certain nombre de fois dans les anecdotes qui nous sont rapportées à son sujet. Par exemple, il demande de l'argent à un avare et comme l'avare hésite, il ajoute « Je ne te demande pas pour mon enterrement, mais pour calmer ma faim ». Autrement dit, l'avare pense que Diogène va lui demander beaucoup d'argent, alors que Diogène étant Diogène, menant une vie frugale, il ne va demander que de quoi se sustenter, c'est-à-dire très peu. C'est-à-dire que l'avare, dans cette anecdote, se représente les besoins de Diogène comme des besoins immenses, ce qu'ils ne sont pas. Et justement, c'est cette erreur de représentation qui est en jeu dans la mendicité telle que la pratique Diogène et telle que je propose d'en formuler une version un peu positive. C'est qu'au fond, ce que la mendicité convoque, c'est qu'est-ce qui nous est commun. Et au fond, on pourrait se rendre compte que, si une vie frugale est possible, Eh bien, ce qui nous est commun, si une vie frugale est possible, elle rend possible le commun, justement. Et donc, mendier perd complètement son sens de mouvement unilatéral de celui qui donne vers celui qui n'a pas. Donner ou recevoir devient presque indifférent, puisque avec peu, nous pouvons satisfaire l'ensemble des besoins. Et c'est peut-être ça, effectivement, la sagesse de Diogène, c'est-à-dire de nous inviter à changer le regard, changer l'équation du donner et du rendre, du plus et du moins, comme si tout cet échange-là était un transfert de biens. En réalité, ce que Diogène propose, c'est de dire, mais au fond, si nous vivions plus, de façon plus sobre, la question de la réciprocité qui vous pose problème quand il s'agit de donner à l'autre ne se poserait plus, puisqu'il y aurait suffisamment pour tous, d'une certaine manière.
Et vous allez même jusqu'à écrire dans la conclusion de votre essai, il y a dans la mendicité un souffle, une puissance qui demeure inaperçue parce que les mendiants continuent d'être considérés avec les yeux de ceux qui bâtissent le monde à leurs dépens. Et cette autre mendicité que vous défendez ou que vous proposez, elle serait un remède peut-être aux difficultés contemporaines ? Peut-être pas, mais c'est un regard en tout cas que vous voulez proposer.
C'est plus ça, c'est plus un regard. Nous sommes à un moment d'extrême tension politique fondée sur qui engage des inégalités, des injustices sociales. La question de la distribution des richesses est quand même éminemment problématique à l'échelle, pas simplement de notre pays, mais à l'échelle planétaire. La mendicité est proposée dans l'ouvrage comme un instrument qui n'apportera pas une solution, mais qui peut-être aide à mieux saisir ces phénomènes et à montrer qu'effectivement, la mendicité n'est pas que le rebut ou le produit d'une violence exercée par des mécanismes économiques, sociaux et politiques, mais qu'en réalité, elle a une richesse, une positivité qui est celle, justement, de remettre les choses à plat et de dire, mais au fond, on pourrait peut-être vivre autrement, oui, à l'échelle collective. Alors, bien sûr, le livre ne va pas changer les choses, mais peut-être, peut-être modifier un peu le regard qu'on porte sur la mendicité qu'on voit toujours comme le pôle de vie négatif que personne ne veut embrasser, évidemment, bien sûr. Mais si on le regarde un peu différemment, on peut percevoir en lui finalement une force de transformation, et c'est à cela que le livre fait allusion.
C'est ça, c'est ce souffle, cette puissance dont vous parlez, exactement. Mais c'est une méthode assez originale que de prendre un concept social et d'en faire un enjeu philosophique. Et c'est ce que vous aviez fait également dans votre précédent essai sur la philosophie des lieux. Vous expliquiez que les lieux avaient fait l'objet, dans les sciences humaines, de travaux en historique, sociologique. Je pense que l'historique, c'était les lieux de mémoire ou sociologique, mais moins sur le plan philosophique.
Oui, alors cette histoire de lieu m'avait intéressé et continue de m'intéresser d'ailleurs.
Et on en trouve des échos dans votre livre sur la mendicité, aussi sur la spatialité de la mendicité.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est
des correspondances entre tous ces livres.
Oui, c'est exact. Merci de l'indiquer. Effectivement, il y a un réseau là de réflexion qui se développe plus ou moins selon les ouvrages. Mais la question des lieux, oui, une question qui me semble primordiale et d'autant plus primordiale qu'elle peut paraître un peu contingente ou anecdotique. Au fond, nous sommes indépendants des lieux dans lesquels nous vivons, puisque nous passons des uns aux autres, etc. Mais en réalité, les lieux façonnent une bonne partie de notre existence. La conditionne, la détermine en partie, et il m'a semblé qu'il y avait là un peu un impensé, jusqu'à un certain point, en philosophie. Alors il y a quelques philosophes, bien sûr, qui en ont parlé. J'évoque Platon, Aristote, et puis après je fais un grand saut jusqu'à Heidegger. Mais ça n'est pas un thème extrêmement courant.
La célèbre conférence « Habiter,
bâtir, habiter, penser ». Exactement, exactement. Donc c'est un thème beaucoup traité par contre par les géographes, puisque la géographie est définie depuis le XXe siècle comme la science des lieux. La géographie, la littérature, s'est beaucoup emparée aussi de cette question-là, l'architecture évidemment, mais la philosophie est restée relativement muette. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres livres, bien sûr, il y en a, mais c'est relativement rare, à la différence des textes qui parlent au contraire de l'espace, qui est une autre notion, une notion liée mais distincte. Et je pense que ce qui gêne en philosophie avec les lieux, c'est leur particularité. C'est-à-dire que l'espace, c'est le concept universalisable par excellence, notamment dans sa que ce soit dans sa version métaphysique de choses étendues chez Descartes, liée à la notion du corps, ou l'espace tridimensionnel des mathématiques. Donc c'est aisément universalisable, l'espace. Le lieu est placé sous le sceau de la particularité et de la contingence. Que ce soit le lieu où nous habitons, et dans le lieu où nous habitons, une pièce particulière avec ses particularités, une ville, etc., un quartier. Comment donner une portée philosophique à ces choses qui sont finalement si contingentes ou anecdotiques? Je pense qu'en fait, notre rapport avec les lieux est constitutif, et que... il y a de l'universel dans la façon dont nous rapportons à nos lieux particuliers.
Mais les lieux ont leur génie aussi. On en a souvent parlé, non, du génie des lieux.
Oui, c'est le titre d'un ouvrage de Michel Butor. Et c'est une notion, la notion de génie des lieux, effectivement, qui consiste à saisir ce qu'a d'unique chaque lieu particulier. Et d'en faire valoir l'identité propre, la singularité forte qui le distingue de tout autre lieu. Alors, c'est une notion extrêmement intéressante, la notion de génie du lieu. Le génie, c'est ce qu'il y a de propre à quelque chose, ce qui est inhérent à quelque chose, d'une certaine manière. Et ça peut concerner toutes sortes de lieux. Alors, l'expression génie du lieu, elle a aussi un sens en anthropologie, puisqu'il y a des fleuves qui ont un génie, qui sont habités, des fleuves, des montagnes, des bois, qui peuvent être habités par un esprit. Donc, là aussi, on peut parler à leur propos de génie du lieu. Et puis, ça peut caractériser un lieu particulier, habité par la mémoire historique, des souvenirs personnels ou plus collectifs, etc. Mais ce qui me gêne un tout petit peu dans la notion de génie du lieu, ou ce qui me semble peut-être insuffisant, je dirais, pour penser le lieu correctement à partir de cette notion, c'est que le lieu est replié là sur une dimension identitaire, qui est extrêmement forte, comme si le lieu était réduit à son identité, à une identité un peu figée. Éternel, valable de tout temps. Et je pense que ce qui se joue dans les lieux, c'est l'usage que nous en faisons. Et justement, ce sont deux choses. C'est les usages que nous en faisons qui fait que les habitants d'une même demeure ne vont pas tous penser leur lieu de la même façon.
Les Latins, non, parlaient du genius loci, non? Oui, c'est ça. Donc c'est une notion très ancienne qui existait sous l'Antiquité. Ouais.
Oui, c'est une notion ancienne. Donc vous avez à la fois cette idée que les lieux sont ce que nous en faisons et que nous dialoguons avec eux d'une certaine manière. Ils nous font et nous les faisons, nous les aménageons, nous les fréquentons. Mais ça n'ôte pas. C'est justement là le moyen.
C'est pas immuable.
C'est pas immuable. Et puis une dimension historique, collective ou personnelle. Et puis deuxièmement, je pense que aussi la limite que la notion de génie du lieu comporte, c'est qu'elle oublie de penser le lieu dans sa relation avec d'autres lieux. C'est-à-dire que un lieu existe d'une certaine manière toujours en réseau. C'est-à-dire qu'il n'est lieu que parce qu'il n'est pas les autres lieux et qu'il se détache ou est en communication aussi avec d'autres lieux qui lui sont extérieurs, plus ou moins proches, plus ou moins lointains. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est si vous allez à la plage dans une grande ville, la plage jouxte la ville. Ce sont deux lieux différents, Mais l'un ne va pas sans l'autre, d'une certaine manière. Les attitudes vestimentaires, les façons de parler, de se conduire sur la plage vont être distinctes de celles que vous avez dans les rues qui jouxtent immédiatement la plage. Chaque lieu aura son identité, mais on voit bien que... chaque lieu est un petit peu travaillé et prend sens par rapport à ce que d'autres lieux définissent comme manière de se comporter, de vivre, de se conduire, etc.
Mmh. Et donc, les lieux ne doivent pas être considérés en eux-mêmes. C'est ça, seulement pour eux-mêmes, et doivent être pris en interaction les uns avec les autres.
Oui, je pense que c'est une façon intéressante de les considérer. Ils fonctionnent un petit peu en réseau ou en carte, hein, d'une certaine manière.
Et en constellation.
En constellation, oui. Tout à fait. Et il y a également, je pense, dans les lieux, une puissance aussi de transformation, un pouvoir des lieux, d'une certaine manière. Pas simplement un génie, mais un pouvoir. Alors, dans le livre, je prends cet exemple qui est un petit peu saisissant, mais qui a marqué aussi beaucoup d'entre nous. C'est ce char arrêté par un manifestant sur la place Tiananmen. Qui a transformé finalement une place qui est un symbole du pouvoir, hein, dans son immensité glaciale, en un lieu de résistance, d'une certaine manière. Donc l'imaginaire associé au lieu, donc son génie, pourrait-on dire, va évoluer, justement. Oui. Il n'est pas figé. Et ce lieu-là, était une puissance, porteur d'une puissance de transformation réelle et ensuite symbolique, évidemment, avec un tel événement.
Oui, on peut
pourrait
imaginer aussi la Bastille, qui était une prison et puis qui est devenue un symbole de liberté aussi, oui, ou d'affranchissement. Oui, c'est que les lieux changent aussi plus vite que le cœur des mortels, comme aurait dit le poète.
Oui, l'historicité des lieux fait que, loin d'être figé dans une essence intemporelle, ils font l'objet d'une histoire sur le long terme. Ils font l'objet d'une histoire aussi parfois sur le court terme. Nous sommes, puisque nous sommes à Paris, on est contemporains des transformations qui affectent cette ville. Donc voilà, c'est cette dynamique des lieux que j'ai voulu essayer un petit peu de restituer.
D'où ce titre, ici et là, comme si c'est deux concepts différents, finalement, et qui montraient bien cette mutabilité, peut-être. Je ne sais pas si on peut employer ce terme.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que le titre fait allusion au fait que nous sommes là. C'est-à-dire que...
Oui.
Un célèbre philosophe a défini d'une certaine manière la présence de l'être humain. Heidegger indique, voilà, nous sommes au monde, donc nous sommes le là de l'être. Hein, mais cela veut dire aussi que nous avons une présence dans le monde. Ça, c'est un phénomène universel et fondamental, au sens où il est fondateur de notre être au monde. Mais nous sommes là toujours dans des lieux particuliers. Et c'est à cela que renvoie ici. Nous sommes toujours ici. Nous ne sommes pas simplement là, jetés au monde, jeté dans le monde, comme on peut le dire à juste titre si on fait une affirmation, une proposition à caractère général. Ce qui m'a intéressé, c'est de montrer c'est que signifie être non pas simplement là dans le monde, mais toujours ici dans un lieu particulier. Qu'est-ce que ça engage sur justement notre rapport au monde ?
Eh bien, merci beaucoup. Étienne Elmer, pour toutes ces lumières concernant la mendicité ou la philosophie des lieux. Donc, je rappelle les titres de vos livres. Hein. Ici et là, une philosophie des lieux, c'est sorti il y a 5 ans maintenant, 2019, hein, aux éditions Verdier. Et votre nouveau titre, Mendier peut-être. Hein. Les deux livres où on sent aussi traverser l'influence de Diogène le Cynique, hein, qui est un peu un de vos fils rouges, pourrait-on dire.
Oui,
Un compagnon, en tout cas.
Un compagnon, oui. Un compagnon dont la force critique, malgré le peu de texte que nous avons à son sujet. Je crois que c'est quelqu'un aussi qui a l'immense intérêt de vivre la philosophie, c'est-à-dire de l'incarner. D'incarner une vie philosophique et de nous rappeler que la philosophie n'est pas seulement une discipline spéculative, mais qu'il y a eu une époque, comme dit Nietzsche, où elle a eu des effets sur la vie. Et bon, je ne sais pas si cette époque est révolue ou pas, mais...
Vous n'en avez pas fini avec lui, alors.
Moi, en tout cas, je n'en ai pas fini avec lui.
Oui. Vous ne lui avez pas dit au revoir. Bon, ben, en tout cas, peut-être que vous travaillez sur d'autres sujets actuellement et qui sont en rapport avec... ce qu'on a de lui. Je dirais pas ce qu'il a laissé, parce que finalement, il a peut-être rien laissé. On a que des propos rapportés. Et puis, les lettres qu'on lui attribue sont plus ou moins apocryphes, non ?
Complètement.
Ah, complètement, même, complètement. Merci beaucoup, Gauthier, qui nous a accompagné à la technique. Et évidemment, une émission sur la mendicité. On devait terminer avec un célèbre banquet de mendiants. Beggar's Banquet, 1968, les Rolling Stones. Chers auditeurs, encore une fois, très bonne année 2024 et on se retrouve le mois prochain.
So take me.